passons maintenant à une deuxième discussion sur le boycott, avec une présentation par le professeur François Dubuisson, également de l'Université libre de Bruxelles, intitulée « La répression de l'appel au boycott des produits israéliens est-elle conforme au droit à la liberté d'expression ?» Voilà, 15 minutes.
J'enclenche mon chrono. Voilà, donc la question que je vais aborder consiste à déterminer si la répression de l'appel au boycott des produits israéliens est conforme au droit à la liberté d'expression. Et si cette question se pose, c'est au regard de la situation en France, puisque, comme vous le savez assez certainement, il y a eu plusieurs condamnations en France de personnes qui ont appelé au boycott des produits israéliens et qui ont été condamnées pour incitation à la discrimination nationale. Alors, on a eu une première affaire qui était l'affaire Willem, qui était un maire d'une petite commune qui, suite à l'opération Rempart de l'armée israélienne en 2002, avait annoncé en conseil communal un boycott des produits israéliens au sein de sa commune, en particulier les jus de fruits. Une seconde affaire, qui est l'affaire Sakina, oui, et l'affaire Willem a débouché sur une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. La seconde affaire, c'est l'affaire Sakina Arnaud, qui était le nom d'une militante d'un comité de boycott qui avait fait une action dans un carrefour et qui avait en particulier apposé un autocollant boycott Israël apartheid sur une bouteille de jus de fruits et qui s'est fait également condamner pour incitation à la discrimination nationale. Et puis plus récemment encore, en janvier 2011, il y a eu une condamnation d'un militant qui avait posté sur Dailymotion une vidéo rendant compte d'une action BDS dans un carrefour et qui s'est fait également condamner pour avoir posté cette vidéo pour discrimination, incitation à la discrimination nationale. Et à l'heure actuelle, selon les informations, il y aurait environ 80 personnes qui seraient poursuivies pour des faits analogues. Alors, ces poursuites s'inscrivent dans une politique gouvernementale française, puisque en février 2010, la ministre de la Justice de l'époque, qui était Michèle Alliot-Marie, qui a eu le destin que l'on connaît, a émis une directive qui enjoignait les parquets de mener avec toute la célérité et l'efficacité nécessaires des poursuites pour toute action de boycott visant les produits israéliens. Et pour bien comprendre cette situation qui est assez spécifique à la France, il faut constater qu'il existe en France une législation spécifique qui découle de deux dispositions du Code pénal, les articles 225.1 et 225.2, et qui vise de manière particulière le boycott, encore que ce ne soit pas dit de manière aussi explicite. Puisque selon ces articles, ce qui est puni, c'est le fait d'entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque en opérant toute distinction entre les personnes physiques ou morales à raison de leur appartenance à une nation. Et l'incitation à un tel fait est également incriminée. Et donc cette législation a été appliquée à l'égard de militants d'ONG et se pose bien entendu la compatibilité de cette répression, de cette application avec le droit à la liberté d'expression, qui est un droit qui est consacré par plusieurs instruments internationaux et européens. Et en particulier, je vais me référer à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 19 du pacte sur les droits civils et politiques, qui consacre donc le droit à la liberté d'expression. Alors, qui autorise certaines limitations, mais à des conditions strictes. Première condition, c'est que la limitation doit être prévue par la loi, et ça suppose que la loi soit clairement et de manière prévisible applicable aux faits qui sont concernés. Et il faut également que la limitation soit nécessaire à la poursuite d'un objectif légitime. Et en l'occurrence, selon les juridictions françaises, l'objectif légitime, c'est le respect des droits d'autrui. C'est ce qu'on trouve dans les textes internationaux européens. Et en l'occurrence, les droits d'autrui, c'est les droits des producteurs israéliens. Alors, je vais examiner la licéité de la répression du boycott au regard de ces conditions. Et je vais montrer que, au regard de celle-ci, à mon sens, cette répression n'est pas compatible avec le droit à la liberté d'expression. Donc, tout d'abord, je vais montrer qu'il existe des incertitudes importantes quant au caractère applicable de la loi même française. On va voir finalement quelle est sa substance. Et d'autre part, je montrerai qu'en toute hypothèse, les mesures de limitation ne peuvent pas être considérées comme étant nécessaires et proportionnées à la protection des droits des producteurs israéliens. Donc, premier point, le fait que la limitation, en l'occurrence, n'est pas prévue par une loi, c'est-à-dire pas par une loi qui est suffisamment claire et prévisible pour prohiber les faits concernés, à savoir ici des appels au boycott faits par des associations militantes. Alors, pour examiner cette question, il faut faire un petit détour historique par la genèse de cette loi française. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails à ce stade parce que sa genèse et sa naissance et ses premières années d'existence ont été assez mouvementées. On pourra éventuellement y revenir dans les questions. Mais il faut savoir que donc, cette législation a été adoptée en 1977 contre l'avis du gouvernement français. Donc, c'était une initiative parlementaire. Et qu'elle visait, et là je reprends l'exposé des motifs de la loi, ce qu'elle visait à l'origine, c'était, je cite, « essentiellement à lutter contre le boycott par certains pays des entreprises ayant des relations commerciales avec Israël ». Donc ce que ça visait en réalité, c'était le boycott décrété par les États arabes et le fait que des sociétés françaises étaient mises, disons, au pied du mur, étaient obligées d'inclure ou d'accepter des clauses par lesquelles il admettait ne pas avoir des relations avec des sociétés israéliennes ou ne pas recourir aux services de sociétés israéliennes. Et étaient concernés également certains organismes publics qui apportaient des garanties à des contrats internationaux. Donc, ce qui était visé, c'était le fait que des sociétés commerciales françaises ne soient pas obligées d'accepter et même soient obligées de refuser de donner effet au boycott décrété par les États arabes. Donc on constate que c'est une situation qui est totalement différente de celle d'associations militantes qui, en France, feraient des appels au boycott. Donc la situation qui était envisagée au départ était totalement différente, puisque là, on était dans le domaine des relations du commerce international. Il s'agissait d'un boycott qui était imposé par des États tiers, les États arabes, et on était dans le cadre d'activités qui étaient tout à fait étrangères aux activités militantes ou même à la liberté d'expression. On était dans le domaine du réalisme commercial. Alors, ce n'est que, en réalité, ce texte n'a pratiquement jamais été appliqué, effectivement, et ce n'est que dernièrement que, finalement, on a instrumentalisé ce texte pour l'appliquer à la situation d'ONG qui faisait des appels au boycott en France. Alors même, donc, que les conditions d'application sont très différentes, puisque les appels au boycott qui sont faits par des associations, eh bien, ça fait simplement appel au libre choix des consommateurs, donc il n'y a pas d'imposition d'un boycott, comme c'était le cas du fait des États arabes. Ils ne sont pas dans la même situation qu'un agent économique, puisque là il y a des principes particuliers qui obligent normalement un agent économique à ne pas refuser de contracter. Le consommateur ou les associations privées, elles sont tout à fait libres de décider de contracter ou de consommer comme bien leur semble. Et en l'occurrence également, il est difficile de dire que lorsque une association militante appelle au boycott et donc fait un appel citoyen, il y a à proprement parler une entrave à l'activité économique. C'est-à-dire qu'à nouveau, ça fait appel au libre choix des consommateurs. Or, le texte parle bien d'entrave économique, entrave à une activité économique, ce qu'on peut concevoir entre concurrents commerciaux, mais pas tellement du point de vue des consommateurs ou du point de vue d'association. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, il me semble qu'on peut douter très fortement du fait que le texte même soit applicable ou ait entendu apporter une limitation à la liberté d'expression d'associations militantes lorsqu'elles font des appels au boycott. Alors, deuxième point, donc c'est la deuxième partie des conditions qui sont prévues par le droit à la liberté d'expression pour autoriser des limitations, c'est qu'il faut que ces limitations soient nécessaires à la protection des droits d'autrui, et en l'occurrence, il s'agirait des droits des producteurs israéliens. Et c'est ici qu'on va pouvoir prendre pleinement en compte les objectifs de la liberté d'expression, qui, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, et elle souligne à chaque fois que la liberté d'expression vaut également, et même sans doute surtout, pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Et selon donc la Cour, pour examiner si une limitation est nécessaire, il faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer s'il était proportionné au but légitime poursuivi, donc il faut une condition de proportionnalité par rapport au but. Et il faut que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent comme étant pertinents et suffisants. Alors, on va examiner ces éléments-là. Et pour mettre en œuvre ces éléments, donc la Cour a recours à un certain nombre de critères plus spécifiques. Premier critère, c'est le fait qu'il existe une protection de la liberté d'expression qui est renforcée pour les associations militantes. Et ça ressort en particulier de l'affaire Steele et Maurice, où il s'agissait presque d'un groupuscule qui distribuait des tracts à l'entrée des McDonald's pour dissuader les consommateurs d'acheter et de consommer des hamburgers McDonald's en leur imputant toute une série de choses particulièrement abominables. Et à cette occasion-là, la Cour a dit, et je cite, « Même des petits groupes militants non officiels doivent pouvoir mener leurs activités de manière effective et il existe un net intérêt général à autoriser de tels groupes et les particuliers, en dehors du courant dominant, à contribuer au débat public par la diffusion d'informations et d'opinions sur des sujets d'intérêt général. » Elle ajoute également que l'expression politique et militante, y compris sur des sujets d'intérêt général, exige un niveau élevé de protection. Et enfin, elle établit qu'elle considère que l'on doit tolérer un certain degré d'hyperbole et d'exagération dans un tract militant et même s'y attendre. On voit donc qu'il y a une protection particulièrement renforcée pour les associations militantes. Et à ce stade, il faut que je dise quelques mots donc, de cette affaire Willem, puisqu'elle a donné lieu à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en juillet 2009. Donc il s'agissait de cette affaire concernant ce maire qui avait fait en conseil communal un appel, une sorte de décision de boycotter les jus de fruits dans sa commune. Il avait été condamné donc en France, il a été jusqu'en cassation, et puis, ayant été définitivement condamné, il va devant la Cour européenne des droits de l'homme qui donne raison à la France d'avoir condamné le maire. Alors, évidemment, a priori, on pourrait se dire que ça sonne le glas pratiquement des appels au boycott. En réalité, à mon sens, cette décision doit être considérée comme n'étant pas pertinente pour tout ce qui concerne les actions de boycott lancées par les associations militantes. Puisque si, et à mon avis de manière critiquable, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là, si la Cour a considéré qu'il était justifié ou justifiable de condamner le maire, c'est au regard justement de sa qualité particulière de maire. Et donc elle a mis en évidence le fait qu'un maire devait observer une certaine neutralité, avoir un certain devoir de réserve, que finalement la décision de boycotter par des autorités publiques devait revenir au gouvernement et pas à une autorité locale, et qu'il n'avait pas véritablement favorisé un débat public, puisque ce qu'il avait fait, c'était prendre une décision d'autorité et non pas organiser un débat au sein du conseil communal. Donc les éléments particuliers qui ont été mis en avant par la Cour, qui à mon sens sont critiquables à différents égards, mais en tout cas ne peuvent pas être transposés aux associations militantes, puisque évidemment elles ne sont pas dans la même position par rapport au gouvernement, elles n'ont aucun devoir de neutralité, aucun devoir de réserve, ils n'imposent aucune décision, et au contraire, ils ont plutôt un devoir d'indépendance par rapport aux autorités. Donc ça c'est le premier élément, à mon avis pertinent, c'est le fait que pour les associations militantes, il y a une protection tout à fait accrue. Deuxième élément, c'est le fait que lorsque l'on se penche sur l'interprétation qui est faite par les juridictions françaises de la loi française que j'ai décrite tout à l'heure, on constate qu'ils en retiennent une interprétation particulièrement exagérée de la notion de discrimination et que leur interprétation empêche en réalité les associations d'essayer de justifier les raisons de leur boycott. C'est-à-dire qu'ils ont une interprétation telle de la loi que du seul fait d'appeler à faire une distinction selon les produits israéliens et les autres produits, eh bien il y a discrimination prohibée, il y a incrimination pénale et qu'ils ne peuvent pas essayer de justifier au regard de différents critères, leur appel à cette distinction. Pour reprendre l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Willem, qui avait justement fait valoir des critères particuliers pour justifier son appel au boycott, la Cour précise que le mobile invoqué, protesté contre la politique du Premier ministre de l'État d'Israël, est sans incidence, dans la mesure où le dol prévu par les articles 225.1 et 225.2 du Code pénal, c'est-à-dire l'élément intentionnel, est caractérisé par la seule conscience de traiter différemment les producteurs israéliens. Le seul fait de traiter différemment des producteurs est suffisant pour qu'il y ait discrimination, quand bien même il y aurait des motifs légitimes à faire valoir de faire cette distinction. Alors, en réalité, cette interprétation de la notion de discrimination se départit totalement de la définition généralement acceptée de la notion de discrimination en droit international ou en droit européen, et notamment la définition qu'en retient la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est le cas également du comité relatif à la discrimination raciale de l'ONU, c'est que pour qu'il y ait discrimination, il faut une distinction, mais qu'au surplus, cette distinction ne puisse pas être justifiée par un but légitime, pour autant que l'on recourt à des moyens proportionnés à la poursuite de ce but légitime. Donc on peut faire valoir des raisons pour expliquer le pourquoi de cette distinction. Et en l'espèce, évidemment, il y aurait toute une série d'éléments à faire valoir pour justifier à la fois de but légitime et du fait que l'appel au boycott est un moyen raisonnable et proportionné pour remplir ce but. Pour reprendre très rapidement, et je crois qu'ils seront développés plus avant par Julien Salingue dans l'exposé qui va suivre, dans les buts légitimes, et d'ailleurs tous ces éléments pourraient être repris également dans l'appréciation de l'équilibre entre la limitation et la liberté d'expression, il y a le fait qu'il s'agisse d'un moyen de pression envers un État parce que cet État viole de manière grave et persistante des règles du droit international, ça justifie donc la distinction qui est faite. Le fait qu'il s'agit de limiter la commercialisation de produits fabriqués dans les colonies et le fait qu'il est en réalité pour le consommateur impossible de distinguer entre des produits provenant de colonies et des produits ne provenant pas de colonies. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen qui lui permet de faire la distinction et certainement pas la politique d'Israël en matière de certificats de mise en circulation puisqu'elle est telle qu'il n'est pas possible en réalité ni pour les douanes sauf à faire des contrôles qui seraient totalement impossibles à réaliser, ni encore moins pour le consommateur de savoir d'où proviennent exactement les produits. Certains produits proviennent en fait des colonies et sont donc en tant que tels illicites. Et ça a été notamment établi par l'affaire Brita Soda Club, je crois qu'il sera développé par Julien Salin. Dans les buts légitimes, il y a le fait également que cet appel au boycott contribue à un débat public d'intérêt général à travers ces campagnes de boycott. Évidemment, il s'agit de favoriser le débat public sur la situation en Israël et en Palestine. Et enfin, et j'en termine par là par rapport au temps, le fait que le boycott soit un moyen tout à fait raisonnable et proportionné à ce but. Tout d'abord, il faut souligner la légitimité de principe des boycotts comme moyen d'action politique. Il y a eu les boycotts visant l'Afrique du Sud et l'apartheid, des boycotts privés visant des sociétés privées. Il y a eu une affaire, je boycotte Danone, en France, par exemple. Le fait que, de manière plus particulière, le boycott visant les produits israéliens a été légitimé très récemment dans un rapport du rapporteur spécial des Nations Unies, Richard Falk, sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Et donc, il reprend ça comme mode d'action pertinent pour lutter contre les violations des droits de l'homme par Israël dans un rapport de juin 2010. Et enfin, le fait que cet appel au boycott est strictement incitatif et non contraignant. Il ne s'agit pas de contraindre les consommateurs à ne pas acheter par des mesures de blocus en fermant l'accès des magasins, mais bien simplement à informer et à inciter simplement les gens. Donc ce n'est pas du tout contraignant comme l'était par exemple le boycott décrété par les États arabes. Donc en conclusion, pour l'ensemble de ces raisons, il me semble que, évidemment, les répressions qui sont mises en œuvre en France contre les campagnes de boycott constituent une violation importante du droit à la liberté d'expression des associations qui sont concernées. Et donc on peut espérer soit que la Cour de cassation française, peut-être bientôt, soit la Cour européenne des droits de l'homme, s'il était saisi, mette fin à cette politique. Je vous remercie.